Bonjour et bienvenue à tous, mon nom est Jim Boulay, vous écoutez l'émission Ciné Brunch, votre magazine de cinéma qui s'assume, mais attendez, serait-ce Mélina et Louis à l'horizon? Comme la brume printanière humecte le parfum des aurores? Ça veut absolument rien dire. Bonjour, chers collègues!
Bonjour!
Salut!
C'est bien nous ici qui sommes présents.
Bon, merveilleux. Et vous savez, dans les derniers mois, on a entendu pas mal d'affaires entourant les gens du milieu du cinéma, les scandales d'agression sexuelle, le harcèlement, etc. Et on s'est posé la question l'autre jour, et on s'est dit, est-ce que ça méritait peut-être une table ronde sur le sujet? Et la question se pose, ou qu'on se pose du moins, croyez-vous qu'on devrait boycotter les films liés aux acteurs-réalisateurs controversés? On en débattra dans la deuxième demi-heure de l'émission et dans quelques minutes, on critiquera pour vous les films La Ligue des Justiciers, L'Âme en double et Merveilleux. Et devinez qui a vu quoi. Et Louis, toi, quoi de 8, cher ami?
Non. je suis pas capable de réagir à celle-là. Quoi de 8? Écoute, j'ai été voir un merveilleux film en dehors de ce que je devais voir pour l'émission. J'ai été voir The Florida Project, dirigé par Sean Baker, qui est un film extraordinaire à propos d'une jeune famille qui essaie de survivre dans un hôtel sous les regards de Disney World. C'est vraiment impressionnant. Je recommande à tous.
Okay.
C'est cute, j'en ai braillé.
Bon, c'est bon à savoir. Et toi, Mélina, de ton côté?
Moi, de mon côté, je voulais vous faire entendre une petite surprise, en fait.
Oh!
Oui, je comprends que tu sois en colère puis que tu aies envie de crier « Pourquoi tu m'as fait ça? » C'est normal que tu vois rouge, tu t'es tellement investi.
Vous venez d'entendre Christian Bégin, en fait, parce que... moi, j'étais triste parce que on parle beaucoup contre le problème, ou bon, en tout cas, on parle beaucoup du problème d'infiltration à Cinébrunch. Un peu trop, mais j'aime bien Christian Bégin. Puis là, ça, c'est la nouvelle pub du Devoir parce que la presse a annoncé qu'elle allait cesser la distribution complète du journal papier dès le 30 décembre. Donc là, la presse, ils ont sorti, en fait, samedi dernier, le nouveau D Magazine. Nouveau cahier du samedi. Et on a trois publicités, trois capsules vidéo, en fait, avec Christian Bégin sur les différentes étapes du deuil. Donc, on avait la colère, le deuil et le choc. Puis, je trouve que c'est... En tout cas, si vous voyez les vidéos, c'est vraiment une merveille à voir. C'est une super belle publicité. Donc, c'était juste pour dire que j'aime Christian Bégin puis je trouve que c'est des très bonnes publicités.
Oh,
donc,
mon Dieu!
Voilà.
Pour Noël, on va s'acheter une tourtière à Christian Bégin.
Avec une coupe de vin rouge, bien sûr. Et moi, de mon côté, ben, vous savez, c'est la fin du mois de novembre. Et qui dit novembre dit...
Moustache.
Mois des morts.
Ben, en fait, Black Friday. Ah. Mais non! Non! Le Movember! Ah,
c'est ça, la moustache?
Exactement.
Oh. Donc, et non pas le mauve comme la couleur.
Je viens de révéler à mes collègues l'incroyable beauté qui orne mon visage actuellement.
Ah.
On dirait qu'une limace qui vient de élire de missiles sous son nez.
Et Louis, t'as démarré le bal la semaine passée avec Le Crime de l'Orient Express et la moustache d'Hercule Poirot. Mais aujourd'hui, pour l'occasion... Toutes les pièces de l'émission seront constituées de chansons de moustache.
Il va y avoir des photos Facebook de cette affaire-là.
Ben, d'ailleurs, j'ai une photo de toi avec une moustache sensationnelle, Louis, que j'aimerais ressortir des boulamites pour le plaisir de nous faire. Je pense qu'on est rendu là. Ça fait suffisamment longtemps pour qu'on puisse la monter.
Calme.
Donc, on fera un concours des plus belles moustaches de Cinébrunch. Malheureusement, Mélina a été disqualifiée. Parce
que je peux
qu'elle
m'en faire pousser.
Non, ça va.
M'en dessiner une.
C'est correct. Je ne voudrais pas nuire à ton futur.
Okay,
donc, les jours entre le Black Friday et le Boxing Day passeront vite. On va cligner des yeux et on va manger des oreilles de Christ à la cabane à sucre. Alors, si vous voulez pas manquer Noël, ou du moins ceux qui sont moins nantis que vous, je veux juste prendre le temps de vous dire que demain matin, dimanche le 26 novembre, vous pouvez aller voir un film pour une bonne cause. Présentez-vous à la Maison du cinéma avec des denrées non périssables et vous pourrez aller voir un film gratis. Les dons seront remis à l'organisme Moisson Estrie qui vient en aide aux plus démunis.
Les films sont
Lego
Ninjago et Mon Petit Poney. D'ailleurs, Louis, peut-être que tu devrais revoir ce film culte pour écrire ta thèse de doctorat sur Twilight Sparkle et son étrange relation avec les licornes.
Non, mais nos auditeurs auditrices peuvent aller écouter ma critique de ce film extraordinaire.
Tout à fait, qui date
mais,
de...
Mais donner, c'est pour une bonne cause. Alors, on vous encourage fortement. Une très belle initiative de la Maison du cinéma qu'on salue.
Oui, fait qu'apporter votre canage et autres aliments secs demain. Et juste après, c'est d'ailleurs la parade du Père Noël. Oui, cette année, le Père Noël a le don d'ubiquité car il y aura simultanément une parade à Sherbrooke et à Drummondville.
Oh.
Et c'est merveilleux comment la magie s'opère au côté du Pôle Nord. Donc, on écoute vos critiques dans quelques instants. En attendant, attachez votre moustache avec de la broche parce que c'est Cinébrunch!
Je ne sais si c'est l'effet de ta moustache, mais c'est un fait. Je me mets à loucher sur tous les hommes que je vois passer. Et quand un moustachu vient à me croiser, je n'y tiens plus. J'ai peine à m'empêcher d'aller vers lui pour lui demander: monsieur, pourquoi t'as de la moustache? Dis-le-moi, ça me ferait plaisir.
Louis, tu as vu la Ligue des Justiciers. Est-ce que ça bat tort?
Non.
Vraiment pas.
C'était ça la question de départ. La réponse est non.
Tu as tort, Jim, de dire ça.
Non, on recommence pas, ça alors qu'on n'a pas le droit. Je sais pas.
Non, on peut recommencer. Ah, okay. Je suis comme tu le fais, mais. Non, ça ne bat pas tort. Si c'était ça la barre à surpasser, ça n'est pas le cas. Ça ne s'est pas passé.
Bon.
Juste pour le petit historique, la Ligue des Justiciers, c'est après avoir retrouvé foi en l'humanité, Bruce Wayne, inspiré par l'altruisme de Superman, sollicite l'aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi plus redoutable que jamais. Ensemble, Batman et Wonder Woman ne tardent pas à recruter une équipe de méta-humains pour faire face à cette menace inédite. Pourtant, malgré la force que représente cette ligue de héros sans précédent, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et le Flash, il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d'une attaque apocalyptique. J'ai le trailer apocalyptique pour aller avec ça d'ailleurs.
Sans l'effet dissuasif de la présence de Superman, nous faisons face à une vague de criminalité à l'échelle mondiale.
On en vient à regretter l'époque où notre plus gros problème était des pingouins mécaniques explosifs.
C'est de la folie. Affronter le diable et son armée en enfer.
Ne les affrontez pas seuls. Affrontons-les ensemble.
Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'ils vont gagner à la fin du film.
Mon Dieu, Jim, aurais-tu vu ce film?
Non, je sais pas, c'est mon intuition.
OK. Ce que c'est la Ligue des Justiciers, dans le fond, c'est ça. C'est ce que je viens de vous décrire. Le méchant, c'est Steppenwolf, qui est un méchant directement tiré de l'univers des Nouveaux Dieux créé par Jack Kirby dans les années 70. Steppenwolf ici, le méchant, pas le band de rock canadien.
Merci de préciser. Je pense qu'il y a quelques auditeurs qui étaient déjà rendus sur Bandcamp.
Huit. On les salue toutes.
Oui.
On retrouve la formule qui avait déjà été établie. C'est encore une fois dirigé par Zack Snyder. C'est Ben Affleck dans le rôle de Batman. C'est Henry Cavill dans le rôle de Superman. C'est Gal Gadot dans le rôle de Wonder Woman. J'aurais tellement aimé ce film-là. J'aurais tellement voulu que... Zack Snyder fasse mieux que d'habitude. Puis là, c'est encore plus apparent que Zack Snyder a planté la patente. Zack Snyder, on l'a connu, entre autres, dans L'Homme de Fer. On l'a connu dans Batman v Superman. On l'a connu dans
Le
The
banquier.
Watchmen. On l'a...
Hein? Ah non, ça, c'est Julie. Excuse-moi.
Non, on n'a pas connu dans... C'est pas... En tout cas, on l'a connu dans Sucker Punch. On l'a connu dans un paquet de trucs, mais c'est... On l'a connu dans 300. Puis je sais pas si vous vous rappelez de 300, le film... Over the top, juste extraordinairement violent. On se rappelle des scènes iconiques, des phrases iconiques. Ce n'est pas de la folie, c'est Sparte. Ce soir, on dîne en enfer. C'est tous des films qui sont excellents parce qu'ils sont au-delà de toute prétention humaine. Parce que de leur volonté même, c'est des films qui existent en dehors de ce que c'est que d'être une personne réelle. Puis dans l'univers de DC... Zack Snyder, peut-être de lui-même, peut-être forcé par le studio, a essayé de rendre ses super-héros humains. Et cet homme-là ne comprend pas c'est quoi que d'être humain, parce que à chaque fois qu'il essaye de faire vivre des émotions à ses personnages, ça sort comme étant en bois, ça sort comme étant super difficile, on n'y croit pas, le jeu d'acteur est super ralenti à cause de ça. Puis c'est encore plus apparent dans ce film-là, parce que Zack Snyder, suite à un événement tragique, a dû quitter le tournage et s'est fait remplacer par Josh Whedon. Josh Whedon, qu'on connaît entre autres pour The Age of Ultron, The Avenger, Buffy, La Chasse aux Vampires.
Ah, mais c'est quand même drôle que le réalisateur de Avengers
yep.
fasse la deuxième partie du travail de réalisation du film disons, opposé la version de DC.
De la même manière qu'on a vu le même directeur faire le reboot de Star Trek Star Wars.
Effectivement.
Pas la même personne, mais c'est ça. Mais bref, Josh Whedon est connu pour ses scènes humoristiques, ses scènes vraiment où il prend les émotions des personnages puis il les met en premier plan. Et c'est vraiment apparent. On peut presque dire, scène par scène, ça c'est Snyder, ça c'est Whedon, ça c'est Snyder, ça c'est Whedon. Ce qui fait un film qui est dur à suivre, où les acteurs sont pas nécessairement crédibles, Cyborg entre autres, j'aurais aimé y croire, j'aurais voulu aimer ce personnage-là, malheureusement, il est tellement froid, inhumain, pas vraiment là, son arc est incompréhensible. Jason Momoa, que je trouve normalement extraordinairement présent dans ses rôles, on l'a vu entre autres comme étant Khal Drogo dans Game of Thrones, qui dans ce film-là sort à peine ou est pas vraiment là. Gal Gadot réussit ou essaye de sauver le film à elle toute seule, ça réussit pas, surtout qu'elle est mise en face de Ben Affleck qui est vraiment décevant dans ce film-là, avec Batman qui est fatigué, qui a plus vraiment de raison d'être là, puis qui a juste l'air poche comparativement à ses collègues, parce qu'il est même pas dépeint comme le génie qu'il devrait être, ou il est même pas dépeint comme l'espèce de tacticien extraordinaire. C'est juste une espèce de vieux dôme qui fait du crossfit puis qui a bien du cash.
Mais de toute façon, c'est le seul qui a pas de super pouvoir.
Oui, définitivement.
En plus, ça aide pas, disons.
Ah, puis il y a plusieurs gags dans le film où ils disent que son seul super pouvoir, c'est d'avoir ben de l'argent flambé. Par contre, je vais donner beaucoup de mon chapeau levé à Ezra Miller, qui joue The Flash. On l'a connu entre autres comme étant Croyance Bellboss dans Les Bêtes Fantastiques et où on peut les trouver. Il est juste extraordinaire. Le problème, c'est qu'il joue un rôle de Flash qui est vraiment similaire à ce qu'on a vu comme étant Quicksilver dans X-Men Days of Future Past. Fait que oui, mais non, malheureusement. Fait que moi, je l'ai décrit comme ça aux gens autour de moi. Si tu connais pas l'univers des super-héros, si t'aimes pas particulièrement les super-héros, 2 sur 10.
Ouh!
Parce que c'est vraiment pas écoutable.
Ah oui,
l'histoire est à ce point-là. Par contre, si t'aimes les super-héros, si t'as déjà une affinité pis si t'as envie de voir tes super-héros favoris se battre ensemble, y a vraiment des bassins de combat. Y a vraiment des moments où j'ai fait « Ouh, j'étais excité, j'ai le poil. » Qui lève. Mais pas assez. Pas assez pour justifier un film au complet. C'est Fast and Furious, mais pas d'histoire. C'est la trilogie des Bourne, mais sans Matt Damon. C'est ça. C'est 3 scènes de combat qui valent la peine, pis ben de la merde entre les deux.
Ah,
entre
ces 5 là. Écoute, c'est noté. Donc, ta note pour ceux qui aiment les super-héros serait...
6.
Merci, Louis. Et Mélina, toi, de ton côté, tu es allée voir un film merveilleux.
Oui, c'est le film merveilleux, en anglais Wonder, qui est adapté d'un roman de R.J. Palacio, roman du même nom, qui s'appelle Wonder aussi. Ça a été réalisé par Steven Chbosky. C'est lui qui a réalisé Le Monde de Charlie, Perks of Being a Wallflower, qu'on avait vu en 2012, je crois. En tout cas, bref, c'est le film que vous avez sûrement vu la bande-annonce avec Owen Wilson et Julia Roberts, qui jouent les parents, qui ont des très beaux rôles, en fait. Mais ça, on y reviendra. Et avec le jeune Jacob Tremblay, qui n'est pas québécois, mais bien canadien, qui vient de Vancouver, qui a été connu dans le film Room, qui est un film qui a de l'air assez, à ma foi, troublant. Mais bref, c'est lui qui joue le petit garçon. Donc, c'est un enfant qui a le syndrome de Treacher Collins, donc un peu la face
dévisagée un peu.
Oui, voilà. Donc, avant de rentrer plus dans l'histoire, on va aller écouter la bande-annonce.
Je m'appelle Auguste Pullman. La semaine prochaine, j'entrerai en 5e année. Mais comme je n'ai encore jamais mis les pieds dans une école, je dois avouer que je suis terrifiée. Je sais que je ne suis pas comme les autres garçons de 10 ans. J'ai subi 27 chirurgies pour me permettre de respirer, de voir, d'entendre sans l'aide d'un appareil. Mais malgré tout, j'ai l'air différent des autres.
Salut!
Tu n'es pas obligée de faire ça.
Je sais pas de quoi tu parles, Guy.
T'as pas à faire semblant de t'intéresser à moi.
Oh, Guy!
Ok, je suis désolée. Alors, pourquoi t'es venue me parler?
Parce que pour une fois, je veux un ami qui soit gentil.
Moi aussi.
Quel genre de personne voudrais-je devenir? Voilà une question qu'on devrait se poser tous les jours.
Tu es le plus déterminé de toute l'école, montre-leur. Quand on est différent, on ne peut pas se fondre dans la masse.
Ça a l'air touchant.
C'est vraiment touchant. En fait, je pense que, j'ai pas compté, mais je pense que Julia Roberts a les larmes aux yeux une scène sur deux. Je sais pas si le réalisateur était juste vraiment méchant ou si elle est juste vraiment bonne actrice.
Je pense que c'est sa marque de commerce, moi.
où il y avait des oignons sur le stage.
Peut-être ah oui, aussi. Sûrement, ça doit être
mais
ça.
Mais en fait, presque tous les acteurs pleurent dans ce film-là. Puis en fait, dans la salle, ça pleurait beaucoup aussi. Moi, je...
Ah oui?
Je peux t'arrêter? On parle d'acteur. Owen Wilson, moi, je le connais pour comme Wedding Crashers, puis tu sais, pas des films...
Mais je te dirais, Louis, que Owen Wilson est fidèle à lui-même dans le sens que c'est le père, mais c'est le père drôle. Genre, il va faire des blagues, puis comme... Tu sais, dans le sens qu'il est quand même fidèle à lui-même, là. Je pense qu'il joue un rôle... quand même sérieux, mais le rôle du père, vraiment, il va bien. Genre, un père qui fait des jokes, puis comme...
Tu prends ça relax.
Ouais, ouais, tu sais, okay. mais un bon père, des bons parents. Fait que, pour revenir à ce que je disais, ça pleurait beaucoup dans la salle. J'entendais du monde se moucher carrément, là, à répétition. Puis, en fait, c'est vraiment un très bon film, je vous dirais, là. Mm-hmm. Honnêtement, je pense que, premièrement, je dirais que c'est un film qui devrait être présenté dans toutes les écoles secondaires, parce que, vraiment... on aborde vraiment le thème d'un peu de l'intimidation, puis tout ça. Puis ça, c'est vraiment touchant de la façon que c'est abordé. Mais on touche aussi à plein d'autres thèmes. Puis ce que je veux dire par là, c'est que, oui, on suit l'histoire d'Auguste, mais des fois, on va tomber, parce qu'il y a une sœur, il y a une grande sœur, des fois, on va tomber dans sa vision à elle, des fois, dans la vision de leurs amis. Bref, en tout cas, c'est super bien raconté, c'est bien ficelé comme histoire. Je trouve qu'ils ont vraiment fait un beau travail de réalisation et de scénarisation là-dedans, sur la timeline, là, la ligne de...
L'ordre du récit. Là,
l'ordre du récit, en tout cas, oui. C'est super bien, les thèmes abordés. On y va pas juste dans l'intimidation non plus. Je pense qu'on va dans des thèmes qui vont rejoindre un peu tout le monde. Différents trucs que je vous divulgacherai pas, évidemment. Puis, sinon, les acteurs... Le jeune Jacob Tremblay est excellent dans ce film-là. Mm-hmm. Il y a une prothèse sur le visage qui, semble-t-il, prenait une heure et demie à installer.
C'est ça que je me demandais quand tu vois la face, là. Oui. Je dis, il y a du travail,
c'est
là.
Ça. Puis, comme on sait, en tout cas, au Canada, au Québec, les lois sur les enfants qui font du cinéma, ils ont quasiment plus de temps de pause que de jeu. Là, en tout cas, je sais pas comment ils ont réalisé ce film-là, mais moi, si je produisais ce film-là, c'est sûr que je voudrais pas enlever et remettre la prothèse pour chaque 15 minutes de tournage. Là, on s'entend, parce qu'il y a une heure et demie pour l'installer, ça coûte du temps puis de l'argent. En tout cas, bref, fait que je sais pas comment derrière ça, ils ont fait ça, mais d'après moi, ils devaient garder la prothèse pour toutes les journées. Mais super... puis les autres enfants aussi qui jouent dans ce film-là, qui jouent ses compagnons de classe aussi, sont tous excellents. Vraiment, je vous dirais vraiment un film à voir en famille, à présenter dans les écoles, sérieusement. Puis ça me réconcilie aussi un peu parce que dans les deux dernières semaines, je suis allée voir, vous vous souvenez, les Mères Indignes. Oui, c'est ça, mon Dieu, les Mères Indignes. Puis...
C'est vrai, tu t'es tapé deux semaines difficiles, toi, là.
Oui, puis là, c'était pas des très bons films. Ce film-là, on a un film un peu comme le même genre familial qui va rejoindre, qui sort à point dans le temps des fêtes, tout ça, mais qui est bon, qui est bien fait, qu'on a des bons acteurs, que ça le rend, qu'il y a un message derrière tout ça, qu'il y a vraiment quelque chose à dire. Puis ça me réconcilie parce qu'on peut faire des bons films, on peut faire, c'est comme une comédie dramatique, mais on peut faire des bons films genre hollywoodiens si on veut. Puis c'est un film qui vraiment est en train de surpasser toutes ses attentes, toutes ses prévisions qu'il avait faites au box-office. Oui, il est vraiment en train de... Ils ont même changé les prévisions parce que juste avec la première, il avait fait beaucoup plus que prévu au box-office.
Non, mais tant mieux.
Donc vraiment, vraiment, je vous le dirais, puis je le répète, s'il y a des enseignants qui nous écoutent, tout ça, c'est vraiment un film à présenter dans les écoles. Okay. Le professeur et le directeur qui est joué par Maddie Patinkin, puis le professeur de littérature de l'école qui présente des principes un peu au début de chaque semestre à suivre. Puis si vous avez le choix dans la vie entre être gentil puis faire la bonne chose, choisissez toujours être gentil. Puis comme des choses comme ça, puis c'est vraiment un beau film. Également, ça, je le redis et je vais le redire encore. Si vous avez la chance de présenter ça dans des écoles secondaires ou fin primaire.
Je t'arrête une seconde. Y a-tu un âge à partir duquel tu penses qu'on doit le montrer ou est-ce qu'à partir de 5 ans?
Ben, je pense pas que des enfants de 5 ans vont nécessairement comprendre le film. Je pense à ma nièce, puis je pense pas qu'elle comprendrait vraiment le film. Mais.
10.
Ouais, peut-être.
Okay.
Peut-être 8. Un âge où, je pense que ça dépend des enfants, mais oui, ils commencent à être éveillés, à comprendre certaines
thématiques. Quatrième année, 3, 4,
définitivement,
5.
Okay. Définitivement. Puis je le conseille à tout le monde, c'est vraiment un bon film. Je vous donnerais un bon 9 sur 10. Là. Pour le style, là, c'est vraiment... Allez pas voir les mères et les pères de Noël. Allez voir ça, ça vaut vraiment la peine.
OK, mais est-ce que c'est... Est-ce qu'on prend du plaisir à voir ce film-là?
Vraiment.
OK,
ouais.
C'est pas juste triste.
C'est touchant. On rit, comme je vous dis, Owen Wilson, le père de famille drôle, il y a des blagues. Non, c'est vraiment bon. Puis ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que Julia Roberts et Owen Wilson sont un peu mis en retrait dans ce film-là, dans le sens que c'est vraiment l'histoire du fils. mais ils sont là un peu comme acteurs de soutien. Dans le sens, ils ont des rôles principaux, ils sont le père et la mère, mais ils sont bien utilisés. Ils sont pas nécessairement en vedette, mais ils supportent très bien le jeune, puis c'est vraiment fantastique.
Super, fait que peut-être se ramassera-t-il dans ton palmarès des films pour le temps des fêtes, qui
peut-être,
sait?
Peut-être.
Merci beaucoup, Mila.
Merci.
Vas-y, mets ta moustache! Garde ta moustache!
J'ai été voir pour vous L'Amant Double. C'est avec Marine Vacht qu'on a vu dans le film Jeune et Jolie du même auteur et Jérémy Renier qui a joué dans plusieurs films des Frères Dardenne. L'Amant Double, c'est un film écrit et réalisé par François Ozon, un réalisateur français prolifique, 17 films depuis la fin des années 90. Et on écoute la bande-annonce.
J'ai vu que tu portais un autre nom de famille. Tu veux pas en parler?
Si. C'est pas important. C'est pour ça que je t'en ai pas parlé. C'est tout.
Pourquoi tu me mens?
Mais je te mens pas, Chloé.
Je t'ai vu en sortant du musée.
Mais tu t'es trompé. C'était pas moi. C'était quelqu'un qui me ressemblait.
Tu es un monstre.
Hélas, Chloé, il n'y a pas de monstre. Mais que des êtres humains.
Ils formaient un couple si parfait.
Vous venez d'entendre...
Ça sent lourd!
Oui, vous venez d'entendre la bande-annonce du film L'Amant Double et effectivement, ça sonne pas juste lourd, ça l'est, mais pas comme on pourrait s'attendre que ça l'est. Donc, écoutez, d'entrée de jeu, quel film weird! Sérieusement, sérieusement, c'est vraiment plus space qu'on pourrait le croire en regardant la bande-annonce. C'est pas un film d'espionnage, c'est vraiment pas un film romantique. C'est un trailer, oui, absolument. On le classe souvent comme drame érotique. Et laissez-moi vous dire que c'est très érotique, mais qu'érotique ne veut pas dire excitant.
Oh, c'est... t'es pas sorti de là, tu dis?
Absolument pas. Je te dirais pas mal plus l'inverse, s'il y a quelque chose.
Troublé.
Écoutez, c'est spécial là, comme film. Là. Le film nous tient en haleine dès le début. Le regard captivant de Chloé, interprété par Marine Vacht, est troublant. C'est un personnage extrêmement fort qui me rappelle un peu Manon Cotillard ou Arta Dobrochi. Le film ouvre sur Chloé qui se fait couper les cheveux et on enchaîne ça avec une scène, tenez-vous bien, où on voit en gros plan un spéculum sortir d'un vagin. Pas de censure. C'est... ça fesse comme début de film et je vous dirais, le film en entier... et absolument, absolument, complètement intense et éclaté. Sans vous dévoiler de punch, parce qu'il y en a quand même quelques-uns dans ce film-là, disons que l'histoire est que Chloé consulte pour un mal de ventre et qu'elle croit être de cause psychologique. Elle développe rapidement une attirance pour son psy, qui l'amène à emménager avec lui. Durant le déménagement, elle se rend compte que le nom de famille de son mari est différent sur son passeport. Pire, elle voit son mari parler avec une femme alors qu'il est censé être au travail. Là, on pourrait croire que c'est une histoire d'adultère. Mais non! Sa méfiance et sa curiosité l'amènent à découvrir une vérité très différente de celle que vous venez de vous faire en entendant ce que je vous ai dit du film. Je vous jure que vous allez voir ce film-là et vous allez être aussi surpris que si je vous avais absolument rien dit. C'est pas un film d'espion ou d'agent secret ou rien de tout ça, c'est autre chose et ça se passe en dedans. Je vous préviens, c'est pas un film drôle ni agréable à regarder, mais si vous aimez la nouveauté et les expériences scénaristiques, vous en aurez pour votre argent. Louis, je pense que t'aimerais ce film-là, il y a beaucoup, 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 beaucoup de symboles, des miroirs, des chats, mais il n'y a pas de chien. La musique accompagne vraiment bien l'histoire. Dans la bande-annonce, Louis faisait des gros yeux en écoutant la bande-annonce en disant « c'est intense », mais oui, la musique est très forte et très intense au cours du film. L'histoire en elle-même est très intense et choquante par moments. On déteste certains personnages alors qu'on en aime d'autres. C'est possible de tomber en amour avec Chloé dès le début du film. Si votre blonde habite à Montréal et que vous ne l'avez pas vue depuis longtemps, ça peut vous donner des sensations.
Hey.
Et la caméra est souvent collée sur Chloé un peu comme dans un Dardenne et j'aime beaucoup ça. On cligne pas beaucoup des yeux dans ce film-là.
Est-ce que t'as vu Antéchrist de Lars von Trier?
Il y a très longtemps, j'ai vu Antéchrist.
Parce que ce que tu me décris jusqu'à présent, dans les mêmes eaux ou pas pantoute que.
Ben, faudrait que je revoie Antéchrist, mais t'es plus loin du côté horrifique d'Antéchrist. T'es dans quelque chose de. C'est plus psychologique,
ouais.
Mais disons qu'on voit moins de choses. On okay. en déduit.
Pour ceux et celles qui nous écoutent, qui comprennent pas de ce que je raconte, Antéchrist de Lars von Trier est un film qui a été fort bien reconnu quand il est sorti en 2010, 11, je suis pas sûr, qui est un film vraiment haut en couleur et vraiment trash.
Oui, vraiment très trash. Ce film-là, il est pas trash.
Okay.
Il est trash,
ben,
à part la première scène,
ouais, c'est un peu ça. Étant,
mais non, il est juste très malaisant. Et je te dirais même que j'ai... Enfin, c'est un film de dualité sur la fraternité, sur la domination, sur la vie, sur la mort. Et je dirais que le film qui se rapproche le plus de ce que j'ai vu cette année de ce film-là serait Mother, pour te donner un
ah
peu
oui,
une
quand
idée.
Même.
Moins le côté horreur, là, si on veut, mais c'est vraiment ce qui se rapproche le plus. J'ai eu énormément de misère à critiquer ce film-là parce que c'est tellement symbolique, il y a tellement de volets que j'ai renoncé à faire tous les liens. Chose certaine, ça va pas plaire à tout le monde, c'est un film qui est très mal critiqué. Pour ceux qui veulent être surpris dans tous les sens du terme, moi personnellement, je donne un généreux 8 sur 10 à ce film-là.
Ooh.
Malgré que Marine Vacht est vraiment cute, je suis sûr que la plupart des gens vont pas apprécier le film quand même, je veux vous le dire. Mais voilà. Donc, je trouve que ce film-là se démarque, il est intense, je retournerai jamais voir ça. Mais l'histoire, c'est une grosse bulle au cerveau. Le jeu des acteurs est fort et je suis resté sur mon siège tout le long. Donc, 8 sur 10, c'est ça. Dans quelques minutes, on va discuter des acteurs controversés. Comment réagissons-nous quand nos vedettes favorites sont dénoncées dans les médias et réseaux sociaux? On se posera la question. Mais avant d'en arriver là, notre quiz French Marie Gifle. Cette semaine, la controverse fait loi et on a décidé de faire un French Marie Gifle des acteurs controversés, mais pas pour avoir été méchants, violents ou vicieux, mais pour d'autres raisons. On les aime même s'ils ont créé une onde de choc. Cette semaine, Jim Carrey pour avoir soulagé la souffrance de sa femme en l'aidant à mourir. Nicolas Cage parce qu'il est à la fois l'un des acteurs les plus aimés et plus détestés de la planète. Quelle étrange position. Et Tom Cruise pour son idéologie scientologiste. Et aussi, je pense que Tom Cruise se retrouve systématiquement dans tous nos quiz. C'est un peu comme tu dirais, Louis, over the top.
C'est aussi notre problème d'infiltration.
Oui.
Oui, c'est un autre problème, ça. Mais bon, on avait ce French Marie Gifle, il y a juste trois personnes.
Il s'infiltre partout, Tom Cruise. Oui,
tout à fait.
Qui commence? En fait, qui commence?
Je pense que c'est Tom Cruise qui s'infiltrait dans la cave de Christian Bégin.
Bref,
autre histoire. Donc, Louis, French Marie Gifle.
Je pense que je marie Tom Cruise. Parce que film d'action, Mission Impossible, Eyes Wide Shut... Je marie Tom Cruise. Je pense que je French Nicolas Cage.
Oh!
Pour quelques performances qui m'ont vraiment marqué. Il y en a d'autres qui m'ont marqué dans le mauvais sens du terme. Là. L'apprenti sorcier était vraiment pas bon. Et je gifle de manière très cinglante Jim Carrey.
Oh, ouais.
Parce que je suis pas un fan de comédie en partant dans la vie.
Ça aide pas.
Puis, à part. Oh, c'est vrai qu'il était excellent dans Ace Ventura, puis dans Le Masque.
Absolument.
Le Masque est excellent.
Excellent.
Non, j'en reste avec. Je gifle Jim Carrey parce que la comédie passe en dernier.
Bon. Enfin. Bref. Hein?
Hey!
Mélina, de ton côté, French Marie Gifle, Jim Carrey, Nicolas Cage ou Tom Cruise?
Moi, je vais marier Jim Carrey parce que moi, au contraire, là, Louis, je l'aime vraiment beaucoup comme acteur.
Moi, on m'aime pas vraiment comme acteur, ça, c'est correct.
Je vais frencher Nicolas Cage parce que je peux pas me résoudre à frencher Tom Cruise, puis je vais gifler... Tom Cruise, voilà. Je sais pas si vous avez besoin d'explications pour ça, mais il me semble que Tom Cruise, je l'ai dit vraiment assez souvent. Je suis tannée de m'acharner sur lui, un peu comme Christian Bégin, mais dans ces trois...
Je pense que c'est notre faute. Il faut arrêter de le mettre au French Marie Gifle, tout simplement.
Oui, c'est ça.
Je pense que c'est une résolution pour l'année 2018.
Non, mais je pense que c'est ma tâche pour 2018, c'est de trouver un film dans lequel Tom Cruise te plaît. Tant en tant qu'acteur ou que...
Moi, j'ai une idée de ce qui pourrait lui plaire.
Ok.
Ciel couleur vanille.
Tu connais pas un Ciel couleur vanille? J'ai refusé de voir ce film.
Je suis sûr que tu vois, Mélina aimerait ce film.
Bon, mais je l'écouterai et peut-être que je publierai un erratum suite à ça.
Bon, c'est bien.
Excellent.
On voit que c'est pour toi qui fais les mises à jour sur le site web. Donc, voilà. Et de mon côté, bon, d'entrée de jeu, je marie Jim Carrey aussi. Parce qu'il est drôle, il est sympathique. Je suis un grand fan de La Cloche et l'Idiot et d'Ace Ventura. Mm-hmm. Parce que Ace Ventura a bercé mon enfance.
Puis La Cloche et l'Idiot 2.
Ah, La Cloche et l'Idiot 2. Mais je l'ai aimé aussi. Moins que le premier, mais
ah, ouais,
les deux, je les ai vus au cinéma.
Il a été flambé dans les critiques.
Ces films-là sont toujours flambés, mm-hmm. Mais
c'était drôle.
Quand t'aimes vraiment beaucoup La Cloche et l'Idiot, La Cloche et l'Idiot 2 va te plaire, même si c'est un mauvais film.
D'ailleurs, vu ni l'un ni l'autre.
Ah, ben là,
Louis, c'est ta résolution 2018.
Non.
En tout cas, on en reparlera au mois de décembre. Donc, c'est ça. Il a aidé sa femme à mourir, mais par empathie et non pas par méchanceté. Malheureusement, peu de producteurs veulent de lui en ce moment, d'après ce que j'ai entendu, et c'est très dommage. Je French Nicolas Cage. Je sais que c'est aussi bizarre. Même Mélina a fait la même chose que moi. Mais je peux pas m'empêcher de gifler Tom parce que, bon, hein. Nicolas Cage, c'est effectivement un acteur qui surjoue énormément, mais en même temps. J'y ai pensé et je pense que c'est sa face en fait qui est faite comme ça. Parce que Steven Seagal surjoue aussi à sa façon, mais comme il a le visage de glace, ça paraît pas. Mais donc Nicolas Cage, un peu over the top.
Ah non, mon Dieu, un peu.
Mais non,
the
il beast, est très over
the top. Not the beast. I'm a vampire. Il va falloir que je mette des extraits. Faut que je fasse un montage vidéo de ces mêmes moments.
Mais saviez-vous que Nicolas Cage, en fait, de son vrai nom, Nicolas Coppola, était le neveu de Francis Coppola? Qu'on a connu pour The Godfather.
Il a changé de nom.
Il a changé de nom, justement.
Pas,
oui. C'est pour ça que je dévoile son secret au grand jour.
C'est une famille. Ben, j'imagine que c'est pour ça. Hein. En fait, la vérité, c'est peut-être Coppola qui a demandé à Nicolas Cage de changer de nom parce qu'il surjouait trop et voulait pas être associé à lui.
Non, c'était fait, Alan qui faisait que du théâtre.
Ah, ok, bon, d'accord. Ah, oui,
c'est vraiment, il refusait le népotisme à ce point-là.
Ah, ben, je comprends. Il y a du monde qui font ça.
Non, mais peu importe ce qu'on pense de son jeu d'acteur, qui est, ma foi, vraiment too much, le type est vraiment intègre. En entrevue, il sort comme étant. C'est une bonne personne.
Ah, ben, je suis certain.
Mais c'est pour ça qu'on le French et on le
gifle. Moi, j'ai adoré Gone in 60 Seconds, parti en 60 secondes avec Nicolas Cage. Personnellement, un des meilleurs films avec Nicolas Cage, selon moi.
Puis Face Off, t'avais-tu.
Je ne sais pas si j'ai vu ce film-là. Mais ouais. Donc, comme je l'ai dit, je gifle Tom Cruise parce que c'est Tom Cruise et la vie serait terne sans lui, mais c'est juste une gifle, il va s'en remettre.
Ça va peut-être replacer ses dents vis-à-vis son nez.
Oh, si bon. Il fallait que Mélina le sorte encore. Voilà. C'était incontournable. Mais voilà, c'était tout pour French Marie Gifle. Moustache. 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 Yeah. Moustache. Cette semaine, on va parler des vraies affaires. On va se poser les vraies questions. Et on va manger du vrai popcorn. Où doit-on s'en abstenir quand les acteurs ou réalisateurs sont l'incarnation du mal en personne? Tu peux exagérer comme phrase, mais... Disons, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait quand nos vedettes préférées, on apprend d'elles qu'elles sont, mêlées de près ou de loin à un crime, une agression, des choses graves, mais finalement?
Si je peux permettre, Jim, de prendre le micro, c'est ma faute, si on parle de ça aujourd'hui. C'est ma faute surtout suite aux deux derniers épisodes où on a parlé du crime de l'Orient Express, où il y a Johnny Depp, Le Retour de Papa 2, où il y a Mel Gibson, qui sont deux acteurs contre lesquels il y a eu des accusations assez sérieuses. Là. Oui. Johnny Depp a réglé hors cours avec son ex-femme suite à des accusations de violence conjugale et d'abus physiques et émotionnels sur plusieurs années. Mel Gibson, dans une conversation téléphonique avec sa femme de l'époque, qu'on entendait dire au téléphone que si sa femme se faisait violer par une bande de N-word, c'était bien de sa faute. Femme qui l'a par la suite accusé de violence conjugale, qui a demandé un ordre.
Qui n'a pas le droit de venir chez eux, là.
C'est ça.
Ouais.
Ça, tu sais, on s'entend. Ça existait déjà. En 2015, on avait eu Casey Affleck avec Manchester by the Sea qui avait gagné l'Oscar du meilleur acteur. Casey Affleck avait été accusé en 2010 d'agression sexuelle par deux de ses collègues. On a Woody Allen qui, depuis des années maintenant, sème la controverse avec ses relations étranges, ses accusations de pédophilie, d'agression sexuelle. Ouais. On a récemment, suite à une enquête du New York Times, on a un Harvey Weinstein qui était une grosse tête d'Hollywood à tête de plusieurs studios d'importance qui a été accusé d'agression sexuelle par plusieurs de femmes. Il y a eu Louis C.K. qui aurait été qui serait masturbé devant plusieurs femmes non consentantes. On a Kevin Spacey c'est le non consentant qui est problématique.
Ouais.
On a Kevin Spacey qui aurait agressé sexuellement un jeune homme alors que lui était en état d'ébriété. On a Brett Ratner, producteur et directeur, qui aurait agressé 6 femmes. Au point tel que Gal Gadot a refusé de travailler avec lui si c'était lui qui produisait Wonder Woman 2. Donc ça, c'est ceux qui m'ont marqué que j'ai voulu
mentionner. Il y a pas mal de choses là, avec ça. Là. Fait que oui, effectivement. Donc l'idée est venue, tu nous as proposé ce sujet-là.
Puis moi, c'est parce que, c'est ça, je suis de l'avis qu'on peut quand même aller voir ces films-là, mais il faut quand même garder en tête ces choses-là, où je pense pas qu'on devrait... C'est dur. Je sais pas quoi répondre à ça. Jim, toi, qu'est-ce que tu...
Écoutez, moi, je pense qu'il faut... Je me ferais peut-être pas aimer en disant ça, mais je pense qu'il faut faire une différence entre la personne dans la vie réelle et la personne dans le monde, disons, cinématographique. Je cautionne absolument aucun de ces gestes-là. J'aime pas beaucoup qu'on accuse des gens... publiquement, ça c'est une opinion personnelle, j'ai rien contre le fait qu'il y ait des accusations puis tout ça, officiellement, mais j'aime pas l'idée qu'on juge les gens avant qu'il y ait eu un vrai procès, mais dans tous les cas, je comprends que certaines personnes soient tentées de boycotter et de refuser de faire des films avec ces gens-là, de travailler avec ces gens-là, je pourrais comprendre, surtout quand t'es dans une zone de controverse comme ça, c'est pas agréable, il y a une question évidemment d'argent là-dedans aussi, les gens veulent pas avoir un navet parce qu'il y a un acteur controversé qui joue dans leur film. Je comprends tout ça. Cependant, les films qui ont déjà été faits, je pense pas qu'il faut arrêter de regarder le cinéma sous prétexte que certaines personnes ont commis des actes X. Est-ce qu'on veut empêcher ces gens-là d'en faire d'autres? Peut-être. Mais personnellement, je vais prendre l'exemple de Kevin Spacey. Pour moi, House of Cards est une des meilleures séries de tous les temps et je vais pas arrêter de regarder House of Cards, enfin les saisons existantes, parce que il y a des accusations ou un jugement public sur l'acteur principal. Cela dit, est-ce que je cautionne ce qu'il a fait? Absolument pas. Je trouve ça répréhensible et je m'attends à ce qu'il y ait des actions qui soient posées en justice pour punir ces gens-là contre les crimes qu'ils ont faits.
C'est sûr que si on voulait rentrer dans tout le débat de la question de accusation publique versus accusation criminelle, puis des lacunes du système de justice actuel par rapport aux agressions sexuelles, on a déjà eu cette conversation-là hors podcast, puis c'est quand même un débat long et lourd. Mais pour ce qui est plus directement, moi, je dois admettre que je suis un fan fini de Kevin Spacey dans The Usual Suspects à l'époque. Je veux dire, c'est des acteurs que j'ai vus dans le passé, que j'ai apprécié. Woody Allen, j'ai adoré plusieurs de ses films. Est-ce que... Je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'on devrait arrêter de regarder les œuvres qui ont déjà produites? Non, pas du tout. Parce qu'une fois lancé dans le monde, c'est là, c'est fait.
C'est une œuvre d'art aussi, là, tu sais.
J'aime répéter que mon auteur favori, Louis Ferdinand Céline, est un antisémite, misogyne, raciste, bizarre, mais qui écrit d'excellents livres. Mais je suis pas d'accord sur la continuité de la chose. Je pense que c'est des actes d'une importance suffisamment grave ou d'une. Pour dire que je veux pas continuer à voir ces gens-là. Puis,
non, surtout... mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que j'accepte qu'ils fassent plus de production.
Mais... Ah, excuse, je pensais que tu faisais ça planer un autre.
Non.
Mais je pense que je suis du même avis. On l'a vu plus récemment avec Kevin Spacey qui est en train de se faire retirer complètement d'un film.
Oui.
On l'a vu avec Louis C.K. Qui allait sortir un film qui a carrément été retiré de sa boîte de production. On parle d'un film complet avec des vedettes de A-list actors qui soudainement disparaît de la ligne de production, qui sortira pas en 2017 selon toute vraisemblance parce que l'acteur est accusé. Puis ça, je pense que c'est donner sa place à la gravité des accusations qu'il y a contre ces gens-là.
Oui, mais moi je suis d'accord. Là. Il faut... Du moins, tant que ces gens-là n'ont pas été jugés, n'ont pas payé leur peine et que les choses ne sont pas rétablies, je pense que c'est correct qu'on les élimine, qu'on les enlève de la circulation. Cela dit, ce qui a déjà été fait, je considère que c'est déjà
C'est déjà là.
Il n'y a pas de raison d'enlever ce qui a été fait avant. Maintenant, je ne sais pas ce que Milena pense de tout ça.
Ben, je suis d'accord avec vous. En fait, moi, je pousse la réflexion un peu plus loin dans le sens que les producteurs, on l'a vu là, avec Weinstein puis tout, là. Mais les producteurs qui produisent ces films-là, qui ont des accusations portées contre eux, on connaît moins les producteurs, ben je veux dire...
On les connaît moins.
On les connaît moins que les acteurs, pourtant ils font probablement plus d'argent qu'eux. Puis le problème qui se pose derrière ça, c'est que c'est le producteur qui produit. Si c'est sa maison de production, c'est lui qui produit le film... C'est à quelque part, c'est lui aussi qui a le mot de dire « j'arrête de produire mon film ». Alors, si lui, il y a des accusations contre lui, il va pas nécessairement dire, à moins qu'il y ait d'autres gens dans la compagnie ou tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que...
Mais un distributeur pourrait refuser de...
C'est ça, exactement. Il y a d'autres gens qui peuvent s'opposer, mais c'est quand même c'est quand même dans la pyramide cinématographique, le producteur a...
Le pouvoir ultime.
Oui, ouais, c'est ça. Il est en haut de l'échelle. Ouais. C'est ça, il est en haut de l'échelle. Le producteur, dépendant dans quelle société on se trouve, il a quand même beaucoup de pouvoir. Fait que là, ça devient encore plus touché, tu sais. Je pense qu'il y a une responsabilité publique quand même derrière tout ça. Si on pense à ce qui s'est passé au Québec, là, il y a un an ou deux, là, les prix Jutra, là, ça s'appelle plus comme ça maintenant. C'est
non, c'est ça.
Du nouveau cinéma.
Plus proche que ça, on peut parler des Gémeaux de cette année avec Éric Salvaille à la tête, qui a lui aussi été accusé d'agression sexuelle et d'inconduite sexuelle envers certains de ses collègues.
Oui.
Tu sais, puisqu'on parle de vedettes américaines, mais entre Gilbert Rozon. Uh-huh.
Ça se passe aussi ici.
C'est t'sais. Ça.
Puis c'est plus à la télévision, là, mais oui.
De renommée. De renommer déjà, parce qu'on s'entend les prix Jutra, tout ça, ouais. De renommer, je trouve que c'est déjà un bon, une bonne...
C'est déjà une bonne étape à prendre. Puis c'est vrai, effectivement, un des trucs qui réunit tous ces cas-là, c'est que dans tous les cas, ça n'a pas été nommé, c'est que c'était tout le temps des hommes de pouvoir. C'était mm-hmm. tout le temps des hommes qui avaient le pouvoir de faire ou casser des réputations. Puis ça a été dit souvent autour de Weinstein, parce que le type possédait une des plus grosses maisons de production, un des plus gros studios d'Hollywood. Si tu commençais à dire quoi que ce soit contre lui, tu pouvais te faire blacklister à une vitesse phénoménale. Ouais. Fait que, en quelque part, c'est ça. C'est surtout ça qu'il va falloir comprendre. C'est surtout le pouvoir qui est vraiment inégal entre...
C'est la dynamique en arrière de ça, là, qui permet à ces gens-là d'abuser de leur pouvoir puis de faire
des
gestes.
Mais c'est n'importe quel emploi que t'as en tant que pigiste, que t'es à la merci
des employeurs potentiels.
C'est,
là,
ça, c'est ça. Puis pour être un peu dans le domaine, moi, je l'ai entendu, mais pas pour des cas pas du tout relié à des cas de violence sexuelle ou de ça, mais j'ai déjà entendu des gens dire des choses du genre « c'est un petit milieu, puis je vais m'arranger pour que tu travailles plus ». Puis c'était pas du tout relié à ça, là. C'était complètement relié à d'autres thèmes, mais ça se dit, ça s'entend, c'est une sorte de pouvoir que les gens ont sur toi quand tu travailles à ton compte qui devrait pas exister, tu sais, je pense.
Non, mais c'est extrêmement difficile de mettre en place une structure pour protéger les gens, c'est très, très difficile dans ce milieu-là.
Un syndicat.
J'aimerais ajouter une dernière chose avant de terminer ce bloc-là. Au niveau plus de l'émotion, j'aimerais dire que, je sais pas, j'imagine que c'est partagé, mais c'est jamais agréable quand on apprend qu'un de nos acteurs ou une de nos vedettes est accusé de quelque chose ou soupçonné de quelque chose ou peu importe. C'est difficile parce que c'est là qu'on voit à quel point on a une idéalisation de ces gens-là. On aime leur travail, c'est des artistes, hein? On aime leur travail, on reconnaît leur travail et c'est difficile pour nous, quand on idéalise des gens comme ça, d'accepter que ces gens-là, finalement, ce qu'on connaît d'eux n'est pas nécessairement la réalité. Mais je pense que c'est difficile, mais il faut, à mon avis, réussir à faire une différenciation entre l'œuvre et la personne.
Clairement.
C'est pour ça. C'est ce qui appuie ce que je disais tout à l'heure.
C'est ça. Parce que les acteurs finissent par avoir un capital de sympathie qui vient de...
Ben oui, c'est sûr. C'est ça.
Des rôles qu'ils ont eus ou des personnages qu'ils ont joués, tu sais.
Ben oui, tout à fait. En tout cas, c'est fort intéressant. On pourrait en parler des heures, mais évidemment, c'est pas possible. Et voilà, je pense que ça clôt bien cette discussion. Merci à tous.
Il y a du cuir dans ma voiture, l'odeur de mon parfum me rassure. Je n'aime pas montrer mes émotions à la salle de musculation. Je soulève quelques poids et haltères. Mon corps est une machine de guerre. J'ai tout ce qu'on rêverait d'avoir. J'ai peut-être tout, c'est vrai, mais moi je voulais une moustache.
Louis, qu'est-ce qui s'en vient au cinéma?
Hey, c'est pas une si grosse semaine. Il a même fallu que j'aille piger dans des films qui ne sortiront pas à la maison du cinéma. Parce
c'est triste.
Je vais essayer de faire pression sur la maison du cinéma pour qu'ils sortent.
Bon.
Mais qui s'en vient, on a Crise RH, qui est un drame français dirigé par Nicolas Silhol et mettant en vedette Camille Jabi. Emily Tesson-Hanson est une jeune et brillante responsable des ressources humaines, une killeuse. Suite à un drame dans son entreprise, une enquête est ouverte, elle se retrouve en première ligne, elle doit faire face à la pression de l'inspectrice du travail, mais aussi à sa hiérarchie qui menace de se retourner contre elle. Emily est bien destinée à sauver sa peau. Jusqu'où restera-t-elle corporate?
C'est-tu ce qu'on appellerait un thriller de travail?
Ouais.
Un trailer professionnel.
Trailer professionnel.
Ah oui, pour vrai? Ah bon, OK.
C'est, oui, mais la version anglaise, c'est traduit sous le nom corporate, carrément. Là.
Ah, carrément.
Il n'y a pas que la
Paco. C'est correct. C'est ça l'emprunt.
Ben oui, écoute. On a aussi un film qui s'appelle Jeune femme. Ça, j'ai essayé de trouver des informations, mais il n'y a pas grand... Tu sais, c'est pas...
Ben, t'as vu la bande-annonce?
Oui.
Moi, j'ai vu, ça a l'air comme un... ça commence comme un faux documentaire, ça, ça embarque sur
une histoire. Ouais, ben, gagner la caméra d'or au Festival de Cannes, fait qu'on sait déjà qu'il y a des prises de vue malades dans ce film-là. Un chat sous le bras, des portes closes, rien dans les poches. Voici Pollard de retour à Paris après une longue absence. Au fil des rencontres, la jeune femme est bien décidée à prendre un nouveau départ avec panache. C'est sûr que moi, je prends juste les descriptifs que les maisons de production sortent dans leur communiqué. Hein. Oui. Fait que des fois, c'est plus limité.
Oui, je peux comprendre.
On a également, qui s'en vient à la maison du cinéma, Tokyo Idols, qui est un documentaire sur la vie et l'œuvre de ces vedettes de la pop japonaise. Cet univers du divertissement musical hyper sexualisé basé sur l'image rapporte des milliards annuellement. Que ce soit sur scène ou sur Internet, les carrières des plus célèbres de ces chanteuses ou de ces groupes d'interprètes sont construites autour du fantasme de la lycéenne. Celles qu'on surnomme là-bas les idoles vivent un rêve éveillé, connaissent une gloire instantanée pour les plus populaires et deviennent des objets d'adoration. J'ai vu la bande-annonce aussi de ça, ça a l'air vraiment intéressant. La documentatrice derrière ça a été elle-même une vedette.
Ah bon, ok. Ouais. Bon, effectivement, c'est intéressant.
Sinon, les deux qui s'en viennent, qui ne sont pas à la Maison du cinéma, celui-là, j'aimerais vraiment que la Maison du cinéma le présente. Si la Maison du cinéma nous écoute, s'il vous plaît. Lady Bird, qui est une dramédie américaine qui se déroule à Sacramento. Mm-hmm. En Californie, on suit l'année scolaire 2002-2003 de Christine, qui préfère se faire nommer Lady Bird, qui vit une relation tumultueuse avec sa mère. C'est le premier film qui est dirigé par Greta Gerwig, qu'on a surtout connue comme actrice, entre autres, dans Rome, mon amour, de Woody Allen.
Évidemment, ok.
Évidemment, ouais, c'est ça.
Ok.
Mais ça a l'air vraiment bon.
Est-ce que c'est la suite de Birdman?
Ce serait peut-être le prequel de Birdman. Okay, ça se passe avant. Fait intéressant, il a fallu qu'elle mette une toune de Justin Timberlake et Greta Gerwig a écrit une lettre vraiment, vraiment cute à Justin Timberlake pour avoir accès à ses chansons. Oh, oui, c'est très charmant.
Ah, merveilleux.
Sinon, Last Flag Flying, qui est un film de vétéran de la Navy qui essaie de retrouver de ses anciens collègues pour assister à les funérailles de son fils. C'est un espèce de film de voyage avec trois vétérans dans le champ. Honnêtement, ça a l'air bon, mais c'est surtout intéressant parce que c'est le début d'Amazon, les gens compagnie qui nous vendent des livres, comme boîte de production de films. C'est eux qui produisent et distribuent Last Life Flying. Et contrairement à Netflix, qui ne les sortent que sur leur plateforme, Amazon les sort en salle pour 30 jours ou 80 jours, je pense, avant de les mettre en distribution exclusive au travers de leur plateforme Amazon Prime.
Oh, est-ce qu'on pourrait penser que Netflix va suivre avec cette idéologie-là?
Ben, c'est un fait scandale l'année passée parce que Netflix avait accès à Cannes et aux Oscars.
Oui.
Mais à partir de cette année, de 2018 en fait, ils n'auront plus accès à Cannes.
À moins qu'ils mettent un film en salle.
Et voilà.
Donc clairement, ils vont le faire.
Ça se peut qu'ils décident que Cannes veut rien dire pour eux autres.
Ça se peut, mais
ça serait dur.
On verra.
Yep.
Merci Louis. Et maintenant, en sortie DVD Blu-ray cette semaine, Michel Côté et Louis-José Houde sont de retour dans De Père en flic 2. Mais oui, les semaines sont passées et le film est maintenant en DVD Blu-ray. Les deux policiers sont encore obligés de collaborer pour se rapprocher du bras droit du parrain de la mafia. Sinon, de ton côté, Louis, tu vas peut-être avoir envie de revoir Le destin des Logan avec Jimmy Logan qui convainc son frère Clyde de participer à un grand cambriolage durant une course de NASCAR en Caroline du Nord.
C'était tellement bon.
Oui, c'est ça. C'était un de tes tops de l'année. Et sinon, dernier film qui sort, Le peintre des vanités avec, entre autres, Dane DeHaan et Cara Delevingne. Ça vous dit quelque chose?
Ben oui, c'est les vedettes de
Valériane. Mais c'est pas les deux premiers rôles, c'est les deux troisième et quatrième rôles, mais quand même, c'était surprenant de les revoir ensemble. Espérons que ça soit mieux, mais non, en fait, ce film-là est extrêmement bousillé au niveau des critiques. Une femme mariée et son amant initialement engagés pour peindre son portrait se lancent dans la vente de tulipes pour récolter assez d'argent pour fuir. Alors, ambitieux, n'est-ce pas? Et de ton côté, Mélina, qu'est-ce qu'il y a de neuf sur Netflix?
Donc, cette semaine, sur Netflix, on a vu apparaître une bande-annonce suivie d'une série, en fait, qui est basée sur le film de Spike Lee, She's Gotta Have It, qui a lancé sa carrière en 1986. Spike Lee, qu'on a connu aussi pour Malcolm X. Donc, le titre français, Nola Darling, n'en fait qu'à sa tête. Donc, en fait, ils ont décidé de faire une série télé Netflix de 10 épisodes basée sur ce film-là. Donc, Spike Lee a décidé de pouvoir... en fait, c'est ce que ça lui permet d'approfondir beaucoup plus l'univers. Donc, le film de 1986 est sur Netflix. La série est sortie ce jeudi dernier. Donc, définitivement à voir. J'ai vu le trailer, la bande-annonce en français et cela semblait fort intéressant à regarder.
Eh bien, merveilleux. Et moi, j'ai aussi fouiné Netflix un peu cette semaine. J'ai écouté les 6 premiers épisodes de la série Mindhunters. Hey, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose.
C'est pas une série où tu te sens bien.
Non, vraiment pas.
J'ai justement terminé ce week-end la série. Ah, okay. Et c'était... C'est ça. Tu finis pas heureux.
Non,
c'est,
non.
Est-ce
non.
qu'on on appellerait ça des feel bad series?
Je dirais pas si
en
loin,
contraste
là.
Avec les feel good movies.
C'est définitivement une série coup de poing. Personne n'en sort indemne. Mais plus sérieusement, sur Netflix, moi j'ai aussi commencé à écouter The Punisher, qui est vraiment meilleur que The Defender.
Ah, espérons-le. Mais The Punisher, on avait vu déjà cet acteur-là dans ce rôle-là à travers la série
Daredevil saison Daredevil. 2. Et c'était vraiment,
même la saison 1, non? À la fin?
Peut-être.
Ah, je suis
oui.
sûr.
Ah, moi aussi j'ai un blanc. C'est pas grave.
En tout cas,
mais bref, oui, premier épisode, en tout cas, il est meilleur.
Et c'était. Ah bon, très bien. Merveilleux. Ben voilà, c'est tout pour cette émission de Cinébrunch. Merci Louis. Merci Mélina. On se retrouve samedi prochain, 11h. Et d'ici là, rendez-vous sur notre site web cinébrunch.com ou en balado-diffusion sur iTunes, Google Play ou RZO. À la semaine prochaine. Bye bye tout le monde.
Bonne semaine.
Au revoir.